CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Les capsules du patrimoine, bonjour. L'émission Les capsules du patrimoine, des chiffres, une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du patrimoine du PMU d'Iquercy vous fait part de ce qu'elle a découvert tous les mois par le biais de ses recherches. On n'est pas bien loin du service inventaire du patrimoine du PMU d'Iquercy. On n'a pas un long chemin à faire pour atterrir jusqu'à l'église. Et c'est là qu'aujourd'hui qu'on va avec Léa Gérardin-Macario. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et qu'est-ce qu'on vient y faire?
Alors aujourd'hui, à l'église de Quélus, on va aller enquêter sur sa charpente. Je n'arrivais pas à comprendre exactement le principe de mise en œuvre, essayer de comprendre les différentes étapes, s'il y en avait eu, quelles elles étaient, et surtout pouvoir les dater, savoir de quelle époque cette charpente datait, puisque l'église en soi, a été construite entre le 13e et le 15e siècle. Mais la charpente, on ne savait pas la dater. On ne savait pas dire si elle était du Moyen-Âge ou plus récente, voire très récente, des travaux de restauration du 19e ou du 20e siècle. Donc toute la question était là. Est-ce qu'on peut dire si cette charpente est ancienne ou pas? Et comment? Quels indices trouver pour pouvoir le dire de façon certaine? On va s'équiper, on sort les lumières, le projecteur et la frontale pour rentrer dans la tour d'escalier qui n'est pas très éclairée.
Alors, l'inconvénient de la frontale, c'est que quand je vais te parler, je vais t'éblouir.
Ah.
tu refermes derrière toi. C'est parti pour l'ascension.
Donc on voit qu'il y a des travaux récents. Comme on le disait, travaux d'entretien, qu'on les reconnaît assez facilement. C'est du bois tout neuf, qu'on voit bien. Il est tout frais, tout jaune, et scié mécaniquement. Mais on voit aussi qu'il y a énormément de bois ancien. Donc la charpente, c'est composé, ici c'est ce qu'on appelle une charpente à ferme et panne, c'est-à-dire qu'il y a des fermes et des pannes, étonnamment. Donc une ferme, c'est donc vraiment l'élément triangulaire de la charpente. Vous voyez le triangle là avec les deux côtés qui forment une pointe en haut et la base horizontale. Donc ça c'est la ferme avec le poinçon qui est l'élément central, vertical, et ensuite ce qu'on appelle des contre-fiches, donc des pièces obliques qui viennent soutenir les deux côtés du triangle qui s'appellent les arbalétriers. Donc pourquoi les arbalétriers? Parce qu'en fait si vous regardez une ferme, ça ressemble un peu à une arbalète avec deux côtés, donc ils ont pris ce nom d'arbalétrier. Donc la charpente, elle est donc composée de fermes. Ici, dans la charpente de Quélus, de l'église Saint-Jean-Baptiste de Quélus, il y a 16 fermes. Et ensuite, le chevet à pan coupé. Donc, dans ces 16 fermes, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre, est-ce que c'est une seule charpente mise en œuvre en une seule fois? Si oui, à quelle date? Est-ce qu'elle est du 13e, du 14e, du 15e, 16e ou du 19e siècle? Ou est-ce qu'il y a plusieurs structures d'époques différentes ajoutées au fur et à mesure? On va aller se déplacer, on va traverser les 15 fermes, on va aller voir à l'est et on va voir que là, il se passe quelque chose de différent. Alors par contre, pour passer là, il va falloir enjamber toutes les contre-fiches. On a un petit chemin là, mais il va falloir bien lever les genoux.
Il y en a quand même des plus hautes que d'autres. Et là, ça y est, on est complètement dans le noir. Hein.
Alors en effet, là on est arrivé tout au bout. Donc au début, on avait de la lumière parce qu'on avait une petite fenêtre. Et là, on est dans le noir. Heureusement, on a notre petit spot. Et là, donc, on regardait tout à l'heure notre charpente avec ses contre-fiches qui étaient toutes les mêmes fermes. Donc, on en a passé 14. On est arrivé au numéro 14. c'est écrit dessus pour se repérer. Et arrivé au numéro 15, on voit qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que notre ferme n'a plus du tout la même forme. Enfin, on retrouve notre grand triangle, mais les pièces, les contre-fiches sont plus installées de la même manière, c'est-à-dire qu'avant elles étaient obliques, ici on en a des horizontales et des obliques. Et c'est pareil pour la ferme numéro 16. Donc on voit déjà, on a un premier indice qui nous dit que ça change, qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est notre premier indice qui a l'air de nous dire qu'on a probablement deux événements. On a deux fermes différentes du côté du cœur, du chevet de l'église, qu'on sait être construites au XVe siècle. Et du côté de la nef, donc nos 14 fermes, qui sont à peu près identiques. La nef, elle est construite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc là, arrivé à ce moment de l'analyse, la question qu'on se posait, c'était est-ce que, dans ce cas-là, j'ai bien ma charpente du XVe siècle devant moi dans le chevet, et est-ce que, dans la nef, j'ai une charpente médiévale des XIIIe, XIVe siècle, en sachant qu'on connaît assez peu de charpentes médiévales des XIIIe, XIVe siècle dans la région. Donc, arrivé à ce moment-là de l'analyse, il faut trouver d'autres indices qui pourraient nous dire que c'est médiéval ou non. Il faut qu'on observe ferme par ferme toutes les caractéristiques. Et là, quand on a commencé à faire ça, on s'est vite heurté à un problème qui, pour nous qui n'étions pas spécialistes des charpentes, faisait qu'on ne comprenait plus rien. C'est que, en général, les charpentiers, quand ils construisent des fermes, ils les numérotent. Ils mettent des numéros pour se repérer eux-mêmes et ensuite pour préparer la ferme au sol et la lever ensuite sur le monument et les faire les unes après les autres. Sauf qu'ici, quand on regardait les numéros sur les fermes de la nef, tout était sans dessus-dessous. Les numéros ne se suivaient pas d'une ferme à l'autre. D'ordinaire, on va dire, dans une charpente médiévale, en général, on commence d'un côté, il y a le numéro 1, puis à côté, il y a le numéro 2, puis après, à côté, il y a le numéro 3, ensuite, il y a le numéro 4, jusqu'au numéro, je sais pas, 46, s'il y a 46 fermes. Et ici, ça ne se passait pas du tout comme ça. Au début, j'avais le numéro 3, puis le numéro 1, puis le numéro 1, puis le numéro 2, allez, puis le numéro 4, puis le numéro 3, puis le numéro 1, puis le numéro 2, puis une flèche. Alors, arrivé devant ce casse-tête, on n'y comprenait plus rien. Et grâce à un spécialiste qui est venu nous aider, parce que on bloquait un peu pour comprendre comment ça fonctionnait, on a établi donc ce qu'on appelle le plan de marquage. Donc c'est regarder ferme par ferme, ce que je vous ai dit, on regarde les numéros. Et on s'est rendu compte que par ferme, les numéros étaient cohérents entre eux. C'est-à-dire, je vais te montrer là, sur chaque, comment ça marche. Chaque pièce de bois a son numéro. On n'est pas sur la bonne celle-là, elle est compliquée.
Derrière toi.
Donc, les charpentiers, pour se repérer, ils font des traces. Donc, est-ce que là, tu vois apparaître, avec ma lumière rasante contre le poteau, il y a un trait, un autre trait parallèle, deux petits bâtons qui forment un triangle contre mon trait, et un dernier bâton qui vient couper mon trait.
Tout à fait.
Ok. Donc ça, c'est notre numéro de ferme.
Attends, donc il y a le 1, 2, 3, c'est non. C'était trop compliqué. Il fallait faire des petits traits, quoi.
Ouais. En fait, cette ferme, elle s'appelle 2. Donc, mon premier trait, mon deuxième trait parallèle. Et il y a des contre-marques. Il a rajouté des petits bâtons pour donner une spécificité à son 2.
Okay. Deux primes.
Voilà. Et donc, normalement, toutes mes autres pièces de charpente vont lui répondre.
Mais attends, il faut en faire. Faut en marquer 15 des fermes. Et à chaque fois, il a fait des petits zigouigouis différents.
Exactement. En fait, les charpentiers ont une sorte de langage qui leur est propre en créant ces signes à chaque fois. Et tu vois que, en fait, les signes se répondent parce qu'ici, de l'autre côté, donc on est en miroir par rapport à la pièce qu'on vient de regarder, il y a de nouveau deux traits parallèles avec une contre-marque, mais il n'y a plus toutes les autres contre-marques. Parce que là, le charpentier, il se donne des indications. Donc on est toujours sur le 2, deux traits parallèles, deux traits parallèles, deux traits parallèles. On est au milieu, on est côté sud, on est côté nord. Les contre-marques, elles ne sont pas dans le même sens pour pouvoir savoir de quel côté va aller ta pièce. Et qu'on est toujours dans la structure qui s'appelle 2.
C'est-à-dire que d'habitude, il y a un trait, puis après, il y a deux traits, puis trois traits, puis quatre. Là, ils ont décidé d'en faire des traits un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Qui se parlent quand même les uns les autres.
En fait, il y a ce que les spécialistes appellent, c'est quand l'incohérence fait système. On a pas du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à notre 14e ferme, mais cette incohérence, c'est ça notre système. Ça a été interprété justement par les spécialistes comme un changement dans l'organisation des chantiers. Au Moyen-Âge, généralement, les chantiers sont supervisés par un maître charpentier qui vise à l'élaboration de tout, sa charpente, et qui, du coup, suit visiblement toutes les fermes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Et par contre, en général, à l'époque moderne, l'organisation des chantiers change. Il y a plutôt probablement des charpentiers exécutants et un architecte. Et ça change, en fait, visiblement. Puisque là, on voit que probablement les charpentiers, ils ont à faire une ferme et ils vont peut-être pas les faire dans l'ordre, en quelque sorte. Ils vont pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Chacun va faire sa ferme, plus ou moins, et selon les plans de l'architecte, selon ce qu'a établi l'architecte. Mais il n'y a pas le maître charpentier qui est là à veiller à l'élaboration de toute la structure. Donc, ça a été interprété comme ça, et c'est assez intéressant de réussir à partir juste de ce système de numérotation qui, en fait, montre que ça n'a pas été réfléchi de la même façon et ça n'a pas été exécuté de la même façon par les charpentiers. Parce que là, en fait, chaque marque, en fait, c'est probablement deux charpentiers différents. Okay. Deux personnes différentes qui ont leur propre système de numérotation. Et on leur a donné à exécuter des fermes, et donc ils le font, avec leur propre système de numérotation.
Et du coup, on leur a pas dit, tu feras la 1, la 2, la 3. On leur a dit, faisant une deuxième et une troisième. Mais elles n'avaient pas d'ordre précis dans la charpente.
C'est ça. Elles n'avaient pas d'ordre précis. Et puis probablement, elles ont été faites comme ça. Et montées dans le désordre, en fait. Enfin, elles ont été préparées, puis levées, plutôt que montées, levées dans le désordre. On a pris celle qui était prête à ce moment-là. On l'a posée sur la nef à ce moment-là. Donc ça, c'est déjà un indice très intéressant et qui, du coup, nous oriente non pas vers une structure médiévale, mais plutôt vers une structure que nous, on appelle moderne, donc c'est-à-dire après le XVIIe siècle, le XVIe, XVIIe siècle. Et l'autre observation qui a renforcé cette hypothèse d'une structure moderne, c'est les bois eux-mêmes, le matériau. Say it, don't mean it, they'll hear it, they'll see it. Knock, knock, and want to scare them away. You said it, now take it back, take it back, take it back. Hidden, don't hear what you say. I said it, forget it, I meant it, no regret it. Superstition writing is not on the wall. It's in it, within it, all the demons at play. They'll hear what you say. They'll hear what you say, and they will bleed with fate. You are the bait. You
CFM Quélus, le mag.
De retour dans l'émission Les Capsules du Patrimoine à l'église Saint-Jean-Baptiste de Quélus qui a été bâtie en plusieurs étapes entre le XIIIe et le XVe siècle. Elle recèle de beaux éléments patrimoniaux anciens qui ont été étudiés, mais des interrogations persistent sur sa charpente. Est-elle aussi médiévale? Comment en être sûr? Quels indices doit-on chercher et que nous apprennent-ils sur le chantier et les savoir-faire des charpentiers? On retrouve le service inventaire du patrimoine du pays médicartien, donc Léa Gérardin-Macario, qui est architecte du bâti, et on poursuit cette enquête pour découvrir l'histoire de cette vaste charpente.
Donc les nœuds du bois, quand on voit un nœud dans une pièce de bois, c'est une branche. Et quand on voit beaucoup de nœuds sur le cours d'une pièce de charpente, c'est que c'était un arbre qui avait beaucoup de branches. Et ici, on voit que notamment les arbalétriers, ils ont beaucoup de nœuds. C'est des arbres qui ont grandi dans des milieux ouverts. Ça, c'est des techniques de sylviculture, donc de culture du bois d'œuvre, qu'on voit pas beaucoup au Moyen-Âge chez nous, mais plutôt à l'époque moderne, d'utiliser du bois très noueux. Et donc ça, c'est ce qu'on a repéré sur les arbalétriers, sur les entrées, donc la partie horizontale. Et ensuite, dans les contre-fiches, par contre, là, on avait quelque chose de complètement différent. On avait des pièces qu'on appelle en remploi, parce qu'elles ont plein de trous qui servent plus à rien aujourd'hui. Tu vois là, cette espèce d'encoche rectangulaire ici. Ça, c'est des indices qui veulent dire que ces pièces de charpente sont en remploi. Elles ont eu une première vie, une première utilisation. Elles ont été déposées, stockées et réutilisées pour être mises en œuvre ici. Et par contre, ces bois-là, eux, ils ont des caractéristiques qui ont l'air plus anciennes que nos bois très noueux modernes. Donc ça, c'est... Et quand on a regardé à toutes les fermes, on voit que c'est toutes les contre-fiches qui sont remployées. Donc il y a eu... on peut l'interpréter à l'échelle du chantier entier comme un approvisionnement en bois d'œuvre neuf pour les arbalétriers, les entrées, qui sont des pièces importantes, quoi, très longues, et solide, on va dire. Voilà. Donc là, ils ont acheté du bois neuf. Et par contre, les contre-fiches, qui sont des pièces plus petites, en section, en longueur, ils se sont fournis sur un... Où le marchand de bois leur a fourni un lot en remploi, donc probablement qui coûtait moins cher, qui est efficace, hein, qui joue son rôle, qui est solide aussi. Mais où on n'est pas besoin d'aller redébiter du bois neuf pour le faire. Et donc ça aussi, ça nous indique donc justement un recours à un marchand de bois. Et donc plutôt des modes de fonctionnement d'un chantier moderne. Donc là, on voit qu'on a nos indices qui s'accumulent un petit peu en faveur d'une charpente de l'époque moderne. Et au final, on a fait des analyses d'endroits chronologiques qui nous ont permis d'avoir des dates pour ces pièces de bois. On a donc compris qu'on avait un chantier donc, qui correspondait à nos dates données pour les arbalétriers du XVIIIe siècle. Donc le bois neuf, il est du XVIIIe siècle, des années 1750-60. Et dedans, il réutilise en fait une charpente du XVIe siècle, donc les contre-fiches. Donc là, on les a datées aussi, du début du XVIe siècle. Et donc là, on a compris notre chantier, parce que juste avoir les dates, ça marchait pas. On comprenait pas ce qui se passait parce qu'il y avait trop de dates différentes. Donc juste faire les analyses comme ça, ça donnait rien. Il fallait vraiment passer par observer chaque ferme, voir toutes les numérotations, voir toutes les caractéristiques techniques de chaque bois pour comprendre comment avait fonctionné le chantier et quelles étaient ses caractéristiques et comment justement on allait pouvoir dater cette charpente. Voilà. Et pour finir, le chevet, lui par contre, il est du XVe siècle, donc les deux fermes différentes dont on a parlé au début. Lui, il est du XVe siècle, donc lui, c'est bien la période à laquelle on s'attendait, parce que le chevet, donc construit en pierre au 15e siècle, et la charpente va avec. C'est la bonne charpente. La dendrochronologie nous a donné la date de 1471. Et en cherchant dans le dossier de l'église de Caylus, on a une archive qui nous dit que les consuls de Caylus ont donc baillé la charpente, ça veut dire qu'ils ont passé un contrat avec un charpentier de Caylus, un fustier, on dit en occitan médiéval, de Caylus en 1471 pour construire cette charpente. Donc celle-ci, celle du chevet, elle est là, c'est celle qu'on a dans les textes, elle est toujours là. Et par contre, celle de la nef du XVIIIe siècle, c'est un remaniement plus tard dont on n'a pas de traces dans les archives.
Et alors ils ont attendu 300 ans pour finir la construction ?
Alors non, ils ont probablement pas attendu 300 ans. Il devait y avoir une couverture, il devait y avoir une charpente, probablement médiévale, qui était là, quand ils ont construit le chœur au 15e siècle. Et il a dû se passer quelque chose au 18e siècle, qui fait qu'ils ont été obligés de tout refaire. Et c'est là que ça nous interroge, parce qu'on n'en a pas de traces dans les archives. Et c'est pour ça que c'était aussi important de pouvoir la dater, cette charpente, pour vraiment comprendre ce qu'on avait comme monument. Et parce qu'on n'a pas de traces dans les archives de grosses réfections, hormis les archives du Moyen-Âge. Et à l'époque moderne, aucune trace. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Il a dû se passer quelque chose. Soit ils ont changé de type de couverture, parce que maintenant c'est de la tuile. Peut-être, a priori avant c'était de la lauze. Donc peut-être il y a eu des dégâts. Soit un événement météorologique, soit un événement historique, mais dont on n'a pas gardé la trace dans les archives. Et ils ont été obligés de tout refaire.
Une enquête aujourd'hui du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. Mais alors Léa, à quoi bon?
Eh bien écoutez, on est là pour la science déjà, avant tout. Mais surtout, en fait, ces charpentes anciennes, et, elles sont dans des monuments. Et comme on le disait au début, ils sont sujets à travaux d'entretien. Et souvent, les charpentes, on ne les connaît pas. C'est paradoxal, on connaît le monument qui est là, en dessous. Mais souvent, la charpente, on l'a un petit peu oubliée parce qu'elle est à l'abri des regards, parce qu'il n'y a pas eu de grande étude systématique dans la région sur les charpentes régionales en Occitanie. Donc, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elles sont anciennes? Est-ce qu'elles ne sont pas anciennes? Est-ce que c'est que du bricolage? Est-ce que, en fait, non, c'est des structures intègres? En fait, on n'en sait rien. Et c'est important de le savoir parce que quand il y a des travaux, il y a remplacement de pièces ou parfois il y a des cas encore plus exceptionnels comme par exemple Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Et quand une charpente disparaît et qu'on se rend compte après qu'on ne l'a pas étudiée, c'est quand même... C'est quand même dommage. Il faut apprendre. En fait, le but aussi, c'était pour nous, en tant que chargés d'inventaire, apprendre à les voir, à les regarder, à les étudier, parce qu'on ne sait pas le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans notre cursus de base. Il faut vraiment connaître, en gros, un petit peu la pertinence de cette structure et vraiment la voir comme un patrimoine. Pas juste comme le toit sur la maison, qui est nécessaire pour protéger les murs. Mais c'est aussi un patrimoine qui nous dit beaucoup de choses sur comment s'organiser les chantiers, comment on approvisionnait les chantiers, quels sont les savoir-faire des charpentiers. Donc on voit qu'il y a des savoir-faire différents entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et dans le cas, par exemple, de Notre-Dame de Paris, ça leur a permis aussi de pouvoir aller rechercher ces techniques anciennes pour refaire des structures aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi le faire, nous, dans la région, parce qu'en fait, nos charpentiers, ici dans la région, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, c'était pas les mêmes que ceux en Île-de-France. Ils n'avaient pas les mêmes techniques, ils n'avaient pas les mêmes bois et donc ils n'avaient pas les mêmes habitudes constructives. Donc ils ont produit des structures qui sont propres à notre région et il faut qu'on apprenne à les connaître pour pouvoir les sauvegarder.
Les capsules du patrimoine sont à réécouter sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Une émission soutenue par le programme européen LEADER, la région Occitanie, le département du Tarn-et-Garonne et le pays d'art et d'histoire du pays Midi-Quercy.